Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir, Emmanuel Macron, l'Européen. Discours sur l'avenir des 27 à Strasbourg. Le chef de l'État est ce soir à Berlin. Première visite à l'étranger qui se veut riche de sens et forte en symboles. On sera sur place dans un instant. Pas une fois le mot guerre, pas une fois le mot Ukraine. Dans son discours du traditionnel jour de la victoire, Vladimir Poutine justifie son choix de l'invasion et indigne Kiev et Washington. Il avait le talent et la vie devant lui. Le fils du chef Yannick Aleno, tué dans un accident de la route la nuit dernière à Paris, le chauffard venait de voler une voiture. Le joli mois de mai, mais sans une goutte de pluie, la sécheresse précoce ce printemps alarme le monde agricole et les scientifiques. Le temps demain sera donc toujours au sec, chaleur et soleil sur presque tout le pays. L'invité politique à 22h20, je recevrai Stéphane Troussel, membre du bureau national du PS. Il vous dira pourquoi il se réjouit de cette union de la gauche pour les législatives. Et puis on découvrira les gros titres de la presse demain matin.
Europe 1.
La force du symbole, ce soir à Berlin, pour son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture samedi, Emmanuel Macron a choisi l'Allemagne. Il est ce soir aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Jacques Serey, vous suivez le président pour Europe 1 pour un geste politique très fort.
Oui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, côte à côte, au pied de la porte de Brandebourg, une porte éclairée en bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien, manière de marquer le soutien de la France, de l'Allemagne, mais aussi de toute l'Europe au peuple ukrainien, explique-t-on dans l'entourage du président, comme s'il s'agissait de répondre par une image au défilé des chars russes sur la place Rouge ce matin à Moscou. Tout un symbole en ce 9 mai, journée de l'Europe, alors que pour Emmanuel Macron, il s'agit du premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection, comme il l'a souligné lors d'une conférence de presse.
Il était évident pour moi que ce premier voyage viserait à marquer la force, l'importance de l'amitié franco-allemande. Et je souhaite que l'amitié qui unit nos deux pays et qui nous unit puisse nous permettre dans les semaines, les mois, les années qui viennent de continuer de construire de grandes choses.
Emmanuel Macron, qui un peu plus tôt à Strasbourg a proposé la création d'une communauté politique européenne qui pourrait accueillir l'Ukraine, une idée saluée par le chancelier Olaf Scholz.
Je tiens à dire qu'il s'agit d'une proposition très intéressante pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés.
Les deux dirigeants souhaitent afficher un visage d'unité au point qu'ils ont annoncé la tenue au mois de juillet d'un conseil des ministres franco-allemands. Mais avec quel premier ministre côté français? La question a été posée à Emmanuel Macron.
Savez-vous, monsieur le président, quel premier ministre français occupera le poste pour ce conseil des ministres? Merci.
Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre.
Le suspense se poursuit donc, alors que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron se termine officiellement vendredi soir à minuit.
Jacques Serey à Berlin pour Europe 1. Emmanuel Macron au diapason de ce lundi 9 mai, journée de l'Europe. Un peu plus tôt ce lundi, le chef de l'État était devant le Parlement européen de Strasbourg pour y prononcer son premier discours consacré à l'Europe depuis sa réélection. Discours marqué bien sûr par la guerre en Ukraine. On rappelle que la France occupe jusqu'à fin juin la présidence tournante de l'Union européenne. Malina Fachin, vous avez suivi ce discours d'Emmanuel Macron qui appelle à fluidifier le fonctionnement de l'Europe.
Oui, pour Emmanuel Macron, l'Union européenne doit être plus indépendante et aussi plus efficace. Il faut pour cela que les décisions soient prises au plus vite.
L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques.
La majorité qualifiée plutôt que des décisions à l'unanimité qui forcément prennent plus de temps. Concernant la demande d'adhésion à l'Union européenne formulée par l'Ukraine, mais aussi la Géorgie ou encore la Moldavie, Emmanuel Macron estime que cela prendrait des années, voire des décennies. Alors il suggère de créer une communauté politique européenne plus large que l'Union européenne.
Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses.
Pour l'instant, rien de concret. Il ne s'agit que d'une idée, mais qu'Emmanuel Macron espère pouvoir soumettre dès le prochain Conseil européen du mois de juin aux autres États membres.
Mélina Fachin à Strasbourg pour Europe 1. Cette communauté politique européenne dont rêve Emmanuel Macron s'adresserait donc en premier lieu à l'Ukraine. Si l'Union européenne est une maison, eh bien en quelque sorte, les Ukrainiens auraient donc droit à une place dans le jardin. Elle s'adresserait aussi, cette communauté, au Royaume-Uni. Après le Brexit, bien évidemment, Emmanuel Macron a lancé cette invitation à Londres ce soir à Berlin. Le 9 mai, journée de l'Europe pour les 27, cette date est aussi très importante pour les Russes qui célébraient ce lundi leur jour de la victoire. Comme chaque année, c'est l'occasion d'un défilé militaire sur la place Rouge à Moscou et toujours sous les yeux de Vladimir Poutine. Le président russe a consacré aujourd'hui une large partie de son discours à justifier son choix d'envahir l'Ukraine.
La Russie a appelé l'Occident à engager un dialogue honnête, à rechercher des solutions de compromis sensées et à prendre en compte les intérêts de chacun. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre. Ils ont commencé le développement militaire actif des territoires frontaliers aux nôtres. Il s'agissait d'une menace absolument inacceptable pour nous. La Russie a donc repoussé l'agression de manière préventive. Désormais, il est de notre devoir d'honorer la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise plus.
Ce concept de guerre préventive ou défensive est d'une absurdité flagrante, réagit ce soir Washington, ainsi qu'une insulte aux victimes. Ce discours de Vladimir Poutine était très attendu. La guerre en Ukraine a commencé il y a 2 mois et demi. On prédisait, on craignait l'annonce d'un tournant ou de mesures radicales de la part du président russe. Au contraire, Louis Dragnel, Vladimir Poutine s'est révélé moins offensif qu'attendu. Le défilé militaire en voilure réduite. Pour quelle raison ?
Eh bien, selon plusieurs officiels français, la première hypothèse possible, c'est qu'après avoir joué le chaud et le froid, après avoir fait monter la pression, Vladimir Poutine a décidé de jouer le froid, la sobriété. La prise de parole du chef du Kremlin a même créé un sentiment presque déceptif chez plusieurs spécialistes de la Russie. Un haut gradé français décrypte, le discours que les Occidentaux attendaient n'a pas eu lieu, Vladimir Poutine nous a pris à contre-pied. La deuxième explication possible de cette parade amputée notamment de son défilé aérien pour des raisons météorologiques, eh bien, ce sont les capacités militaires de la Russie désormais plus limitées. D'ailleurs, l'absence du chef d'état-major des armées russes, Valéry Gerasimov, a été remarquée. Là encore, plusieurs versions. Il a soit été blessé lors d'une visite de la ligne de front en Ukraine, comme l'avance le renseignement américain, soit, et c'est une possibilité sérieuse, il a été déchargé de ses fonctions. Ce qui signifierait, pour ceux qui en doutent encore, que la guerre menée par la Russie à l'Ukraine ne se passe pas du tout comme l'espérait Vladimir Poutine.
Louis de Ragnel. Des Ukrainiens ont bien été envoyés contre leur gré en Russie. Le Pentagone confirme des informations de Kiev. Washington n'a pas de chiffres, mais selon les autorités ukrainiennes, plus d'un million de personnes auraient été déportées en Russie et placées dans des camps. Joe Biden réactive pour l'Ukraine une loi d'assistance militaire qui date de la Seconde Guerre mondiale. Elle va permettre au président américain d'accélérer encore l'envoi d'équipements militaires. Au Royaume-Uni maintenant, une annonce de Buckingham Palace qui relance les inquiétudes sur l'état de santé de la reine d'Angleterre. Pour la première fois en plus de 60 ans, Elisabeth II ne prononcera pas demain le discours du trône. Ce discours de politique générale est écrit chaque année par le gouvernement britannique. C'est donc le prince Charles demain qui se chargera d'en donner lecture. Des ennuis de santé également pour le pape François qui reporte sa visite au Liban. Le souverain pontife a 85 ans, il souffre de douleurs au genou. Il est apparu pour la première fois la semaine dernière en fauteuil roulant.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
François Fillon, condamné à 1 an de prison ferme et 3 ans avec sursis pour détournement de fonds publics dans l'affaire du Penelope Gate. Condamnation assortie d'une amende de 375 000 euros et 10 ans d'inéligibilité. La peine prononcée est moins lourde qu'en première instance. L'épouse de l'ancien Premier ministre, Penelope Fillon, écope quant à elle de 2 ans de prison avec sursis. Marc Joulot, l'ex-suppléant, 3 ans avec sursis. Tous les trois ont annoncé ce pourvoi en cassation, Gladys Laffitte.
Oui, cela veut dire que la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction du pays, va examiner en droit la procédure et dire si oui ou non elle est conforme. Ce n'est donc pas un nouvel examen des faits, mais cela pourrait arriver lors d'un troisième procès si la Cour de cassation estime que la décision rendue par la Cour d'appel est illégale. Cet examen devrait prendre plusieurs mois. D'ici là, les peines prononcées par la Cour d'appel, de prison mais aussi d'amende, ne seront pas exécutées. Elles sont suspendues le temps que la Cour de cassation se prononce. En revanche, l'Assemblée nationale peut réclamer dès maintenant les dommages et intérêts que le couple Fillon et Marc Joulot doivent tous les trois lui rembourser, c'est-à-dire environ 800 000 euros. C'est un peu moins que le million d'euros accordé en première instance. Et c'est logique, puisqu'au lieu des trois contrats incriminés lors du premier procès, la Cour d'appel n'en a retenu que deux cette fois-ci.
Gladys Laffitte. Il avait 24 ans, il marchait sur les traces de son père multi-étoilé. Antoine Aleno est mort la nuit dernière sur son scooter à Paris. Le fils du célèbre chef Yannick Aleno a été fauché par un voleur de voiture en fuite, William Molinier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé.
Oui, aggravé parce qu'il s'agissait d'un véhicule volé et c'est d'ailleurs l'embardé du malfaiteur qui a provoqué cet accident survenu hier peu après 23h dans le 7e arrondissement parisien. Selon nos informations, le voleur s'est présenté au voiturier d'un restaurant huppé avec un faux ticket pour se faire remettre les clés d'une voiture de luxe. Il a pris la fuite à bord de ce bolide, une Audi RS6 roulant à vive allure au feu rouge avenue Bosquet. Il a d'abord percuté un taxi avant de finir sa course et de renverser un scooter à l'arrêt. Le conducteur du deux-roues, Antoine Aleno, est décédé sur place malgré le massage cardiaque prodigué par les secours. Le suspect a pris la fuite à pied avant d'être interpellé par un commissaire de police hors service. Cet homme a 25 ans, on sait peu de choses à cette heure sur son profil, si ce n'est qu'il est originaire de Beson dans le Val d'Oise et qu'il est connu, selon une source policière, pour différents délits routiers. C'est le service du traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police qui est en charge de l'enquête.
William Molinier, la haute cuisine était une affaire de famille entre Antoine et Yannick Aleno. L'accident mortel s'est produit près du restaurant qu'ils tenaient ensemble, Burger Père et Fils. Laurent Mariotte, notre spécialiste gastronomie, avait reçu Antoine Aleno dans la table des bons vivants sur Europe 1. Il est très marqué par ce drame.
C'est une terrible nouvelle. On ne part pas à 24 ans, surtout dans des conditions pareilles. C'est injuste. Je pense évidemment à Yannick Aleno, à son frère, à sa maman. C'est un jeune chef, un jeune garçon qui avait l'avenir devant lui et qui était dans le challenge. Il aimait bien challenger son père. Il était très dans son époque, en fait. Et c'est vrai que voilà, il avait plein d'idées, il avait plein de projets. Et là, il se réalisait déjà dans leur belle cuisine à quatre mains avec Burger Père et Fils. Donc, c'était une belle complicité joyeuse, ludique. Et l'un nourrissait l'autre, quoi. J'imagine qu'ils avaient plein de belles envies et de beaux projets en commun, oui.
Laurent Mariotte, que vous retrouvez chaque week-end sur Europe 1. Un peu plus de visibilité, peut-être, à travers votre pare-brise. La Fédération France Assureurs veut supprimer la célèbre vignette verte, ce petit bout de papier qui vous permet, vous le savez, de prouver que l'assurance de votre véhicule est bien à jour. Eh bien, Carole Ferry, pourquoi vouloir supprimer cette vignette qui est obligatoire depuis bientôt 40 ans ?
Alors, première raison, on pourrait dire la protection des arbres. Est-ce que vous savez que cette vignette assurance, ce sont 50 millions de documents imprimés chaque année? Alors ça, on va dire que c'est pour la petite touche verte. La vraie raison, c'est que quand cette vignette a été créée, c'était pour vérifier d'un seul coup d'œil que tous les véhicules étaient bien assurés. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres moyens techniques. Les assureurs ont créé leur propre fichier dématérialisé dans lequel tous les nouveaux véhicules assurés sont enregistrés sous les 72 heures maximum. Un fichier auquel les forces de l'ordre ont accès depuis 3 ans. Il suffit de rentrer le numéro de la plaque d'immatriculation et vous avez toutes les informations concernant le véhicule, notamment donc son assurance. De son côté, Bercy confirme que des travaux sont en cours depuis plusieurs mois avec les assureurs et les associations de consommateurs. Un travail qui a permis d'avancer sur un certain nombre de points. Mais il faut encore prouver la fiabilité total de ce service dématérialisé, insiste le ministère. Donc rien n'est encore définitif et si la suppression de la fameuse vignette verte semble en bonne voie, eh bien rien ne sera fait en tout cas avant la nomination d'un nouveau gouvernement.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Un soleil radieux sur toute la France, des températures qui grimpent. Marlène Duret vous en dira tout dans un instant. Oui, mais voilà, pas une goutte d'eau ou presque. La sécheresse touche déjà 15 départements français. 10 ont dépassé le seuil d'alerte. On s'avance dans un printemps très sec. Alors même que les pluies de l'hiver n'ont pas rechargé les nappes phréatiques, la nature va souffrir, les cultures aussi. Christiane Lambert, présidente du syndicat FNSEA.
La France est confrontée à un manque de pluie le plus sévère depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on a 33% de déficit, ce qui est énorme sur les 4 mois consécutifs janvier, février, mars, avril. Donc il faut remonter 25 ans en arrière pour trouver pire. C'était en 1997. C'est très grave. Là, le déficit de pluie, quelles que soient les cultures, qu'il s'agisse d'herbes, de prairies, de vignes, de cultures, toutes les cultures manquent d'eau. Ceux qui ont des réserves d'eau vont s'en sortir. J'ai traversé la moitié de la France aujourd'hui. J'ai vu des irrigations sur des blés. J'ai vu des irrigations sur des blés qui en ont besoin. Mais nous n'irriguons que 6% du territoire français. C'est très peu d'agriculteurs qui peuvent irriguer parce que la France a un retard énorme de création de réserves. Maintenant, place aux réalisations et aux décisions.
Christiane Lambert avec Louise Salé. Et puisqu'on parle de décision, eh bien, les amateurs de bains de soleil, eux, n'ont pas hésité un instant à profiter du beau temps de ce lundi, 27 degrés à Paris. Sous le soleil exactement, Arthur Pereira a rencontré les chanceux du Champ de Mars, allongés au pied de la Tour Eiffel.
Des faux airs de mois d'août sur le Champ de Mars, des serviettes étalées par terre, un soleil éclatant. Tout simplement le cadre parfait pour un pique-nique parisien pour ces deux touristes serbes.
On est en train de boire du champagne avec des fraises. Nous avons aussi du fromage et des olives. C'est parfait, au printemps vous avez les meilleures températures. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait.
Un temps estival qui n'a rien à envier à la chaleur du sud pour Angélique et Nicole, deux retraités.
Nous on est méditerranéens, donc on aime bien le beau climat. Hein. Le soleil qui brille. Les oiseaux qui chantent.
Ce soleil, c'est aussi une bonne excuse pour faire l'école buissonnière. Aujourd'hui, pas de cours de communication pour Claire et ses amis, mais un bon thé glacé.
Après manger, on s'est dit un 10 UV5, jardin incroyable, Tour Eiffel quand même. Et on s'est dit, venons ici. Et on est toujours là, il est 16h.
Des températures qui redonnent le sourire et même l'envie de pousser la chansonnette.
Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Nanana, nanana, nanana.
Le lundi au soleil, reportage Arthur Pereira. Lundi au soleil, oui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix quand on peut en profiter, effectivement. Voyons d'ailleurs ce qui nous attend cette semaine avec vous, Marlène Duret. C'est un avant-goût d'été, en fait, hein, qui nous attend.
Absolument, Alexandre. C'est vrai que de nombreuses villes ont pu observer leur premier 25 degrés de l'année, où on l'a même dépassé, comme à Paris, Toulouse et Nantes. Et pour mettre un peu les choses en perspective, les normes saisonnières des maximales pour mi-mai sont plutôt de l'ordre de 19-20 degrés à l'échelle du pays. Voilà. Et demain, les premiers 30 degrés de l'année seront atteints à Bordeaux. On notera 28 dans le Midi Toulousain, dans la Drôme provençale du côté de Montélimar par exemple. 28 degrés attendus à Lyon et ses environs. 28 également à Bourges, à Tours, à Paris, dans le Grand Est. 24 à Lille, comme à Perpignan, hein, nord-sud. Même température.
C'est 20... un peu tôt pour se mettre en maillot de bain quand même, le 10 mai. Hein.
Ben, au soleil, pourquoi pas, hein. Dans l'eau, c'est une autre histoire, mais bon. 22 à 23 à Rouen et 17-19 degrés près du littoral de la Manche entre le Finistère et la région de Cherbourg, parce que par là-bas, eh bien, nous aurons pas mal de nuages en raison d'une perturbation qui circule sur les îles britanniques et qui va déborder un petit peu chez nous. Les nuages d'ailleurs gagneront en journée les Côtes d'Armor et le Boulonnais sur le reste du pays. Allez, on va parler d'un soleil dominant dans un ciel dégagé ou simplement voilé. L'après-midi, quelques nuages bourgeonneront également en montagne entre le Jura, les Alpes et l'île de Beauté, avec parfois quelques averses localisées qui peuvent aller jusqu'au coup de tonnerre en Corse.
Merci Marlène Duret, on fera un nouveau point météo avec vous à minuit sur
Europe 1. À tout à l'heure.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire sur Europe 1. Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Et Claire Lemaître nous a rejoint. Bonsoir Claire. Ça va mieux avec le micro. Est-ce qu'on vous entend ? On a peut-être un petit problème de micro avec Claire Lemaître qui va donc changer de place à l'instant. Voilà, translation effectuée.
Bonsoir Alexandre.
Claire Lemaître, vous êtes avec nous. Bienvenue.
Merci.
Nouvelle séance sous haute tension à Wall Street. Hein, Claire, les craintes pour l'économie chinoise ont beaucoup pesé aujourd'hui sur les marchés.
Hein. Oui, c'est décidément très compliqué pour les marchés. Les indices plient une nouvelle fois ce soir avec un Dow Jones en forte baisse de 1,98%. Et on a un Nasdaq qui chute même de 4,29%. Il tombe à 11 623 points. Les craintes de resserrement monétaire, d'une hausse des taux sont toujours là pour faire face à l'inflation. Et puis la Chine inquiète aussi avec sa politique anti-Covid. Les restrictions sanitaires pourraient se prolonger et bien sûr freiner l'économie mondiale. La Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Les cours du brut ont donc plongé suite à ces informations. Le baril de WTI chute de 5,8%. 6%, 103,32 $ sur le NYMEX. Et du côté des actions, les poids lourds du secteur sont sous pression. ExxonMobil chute de 7,2%, moins 6,6% pour Chevron.
Et parmi les plus lourdes chutes du jour à Wall Street, on trouve aussi le géant des VTC Uber.
Oui, Uber qui va réduire ses embauches et ses dépenses dans le marketing et les subventions. Selon les médias américains, le titre plonge de plus de 11%. Mais la séance a de toute façon été globalement très dure pour le compartiment technologique. On a Apple qui perd 3,3%, Amazon moins 5,2%, moins 9% pour Tesla. Le dollar était en forte hausse en début de séance, mais il s'est stabilisé ce soir et l'euro gagne 0,07%, 1,0558 $. Et puis du côté des cryptos, sale temps aussi pour le Bitcoin qui chute de 9,5% sur 24 heures, autour de $31,300. Il est au plus haut depuis 9 mois.
Ça s'arrange pas
au plus bas, pardon, excusez-moi.
Voilà, c'est rectifié. Ça ne s'arrange pas non plus pour le CAC 40, hein, qui avait déjà perdu un peu plus de 4% la semaine dernière et qui glisse ce soir sous la barre des 6100 points.
Oui, il lâche encore 2,75% ce soir, le CAC 40 à 6086 points. La chute du pétrole pèse sur Total Energy, un des poids lourds du CAC. Le titre accuse un repli de près de 5%. Les groupes de luxe très dépendants de la Chine ont également été délaissés. Kering et LVMH perdent plus de 3%. Et puis c'est du rouge aussi à Paris pour les technos, hein, comme à Wall Street. Du rouge pour Worldline, pour Dassault Systèmes ou pour Capgemini. Les marchés européens aussi dépriment ce soir. Londres chute de 2,3%, moins 2,1% pour Francfort. Milan cède 2,7%, moins 2,2% pour Madrid et à Paris le CAC 40. Il est donc en forte baisse de 2,7%, 6086 points ce soir.
Merci Claire Lemaître.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
L'invité politique à 22h20, comme chaque lundi sur Europe 1. Bonsoir Stéphane Troussel.
Bonsoir.
Vous êtes président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, membre du bureau national du Parti Socialiste et très heureux, je crois, de l'union de la gauche en vue des prochaines législatives.
Oui, en effet, parce que c'est un tournant et surtout ça répond à l'attente fortement exprimée par les électeurs de gauche. Et d'ailleurs, face à l'incapacité des appareils politiques à organiser ce rassemblement, eh bien, les électeurs, lors du premier tour de l'élection présidentielle, l'ont fait par eux-mêmes en choisissant le candidat qui était en capacité d'accéder au deuxième tour. En tout cas, l'espérait-il. Et donc, nous en avons tiré les conclusions en organisant ce rassemblement pour toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs et qui désespéraient depuis des mois, des années, face à la désunion des partis de gauche.
Il ne fait pas l'unanimité ce rassemblement quand on voit Bernard Cazeneuve claquer la porte, quand on entend François Hollande dire qu'il voit là la disparition du Parti Socialiste, Stéphane Troussel.
Oui, mais vous savez, entre la gauche la plus bête du monde parce que divisée et celle qui fait face aux responsabilités, avec responsabilité plutôt aux enjeux politiques, moi j'ai choisi mon camp. Alors je sais bien que ça arrange tout un tas de commentateurs, ça arrange la droite et les macronistes, que ça amuse un certain nombre de gens de continuer à diviser, à fracturer, à caricaturer, y compris les positions prises par les uns et par les autres. Mais moi, je crois encore que ce rassemblement répond à l'attente de nos électeurs. Et puis surtout, ça soulève de l'espoir, de l'attente, des exigences de la part des électeurs et des électrices de gauche. Vous savez, dans un département jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis, eh bien, ça soulève beaucoup d'attentes parce que la gauche dans ce pays, elle ne peut pas gagner à la fois sans rassemblement de ses forces populaires, mais surtout sans la mobilisation de la jeunesse et des catégories populaires.
Ouais, y a quand même toute une partie du peuple de gauche qui dit cette union-là, c'est pas ma gauche. Vous êtes conscient que cette union, qui est en soi un succès effectivement très important, ne fait pas du tout l'unanimité ?
Qu'il y ait des débats, et vous savez, il y en aura toujours dans la gauche. La gauche, c'est, il n'y a pas d'alignement sur je ne sais quel parti unique, derrière je ne sais quelle tête ou je ne sais quel chef. La gauche, elle est faite de courants différents, elle est faite d'une histoire plurielle, de partis politiques qui, justement, mettent en commun ce qui les rassemble davantage pour justement porter une alternative face aux projets libéraux, face aux inégalités, face aux injustices, face aux besoins d'une démocratie renouvelée et désormais face à cet enjeu climatique. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire de notre pays. Alors moi je vous le dis, hein, tous ces éléphants sur le retour, moi j'en est un peu assez de celles et ceux qui reviennent aujourd'hui donner des leçons.
C'est pas que les éléphants, c'est une partie de la base aussi, Stéphane Troussel, hein, qui s'exprime
oui,
contre
oui,
cette
mais
union.
Écoutez, hein. Moi, je sais aussi localement cette base qui se dit oui, c'est difficile, il y a des déceptions parce qu'il y avait des candidats qui se préparaient à entrer en campagne, mais il y a aussi à la fois le sens des responsabilités et se dire que ce rassemblement, cet accord, il permet de resituer clairement le Parti Socialiste dans un camp, celui de la gauche. Et puis encore une fois, toutes celles et tous ceux qui reviennent, ces éléphants de retour qui viennent donner des leçons maintenant, alors qu'en 2017, ils ont laissé un Parti Socialiste exsangue, rincé par un quinquennat qui a déboussolé nos électeurs, pour ne pas dire les a complètement déçus. Mais qu'ont-ils fait durant ces 5 dernières années pour soutenir ces jeunes responsables politiques, cette jeune génération d'élus qui est allée colmater les brèches, qui est allée mener des campagnes victorieuses dans les élections municipales, départementales ou régionales, justement pour maintenant replacer clairement le Parti Socialiste dans le camp de la gauche. Donc les leçons d'aujourd'hui, franchement, ça suffit.
Vous êtes conscient, Stéphane Troussel, que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon continue de cliver au sein même de la gauche. Toute une partie de l'opinion, et j'insiste, de gauche, hein, le trouve trop éruptif, trop imprévisible. On le voit, on l'entend dans beaucoup d'échanges, y compris sur les réseaux sociaux, Stéphane Troussel.
Mais qu'il y ait, que chacun porte son appréciation sur telle ou telle personnalité, moi je peux le comprendre. Et par ailleurs, je reste socialiste. Moi je ne vais pas devenir insoumis parce que je sais ce que la gauche au pouvoir, cette gauche à la fois ambitieuse mais sérieuse, une gauche crédible, est capable de faire pour changer concrètement la vie des gens, tant sur le volontarisme social, la crédibilité économique, l'engagement européen. Et donc, c'est cette gauche-là que nous allons justement, dans le cadre de cette élection, et y compris au lendemain de ces élections, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, que nous allons reconstruire pour lui permettre de traduire concrètement cette nouvelle espérance.
Vous parlez de crédibilité économique, je vois plutôt que c'est l'inverse qui est pointé du côté de la majorité présidentielle, qui invoque un danger économique en cas de majorité de la NUP, hein, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, notamment en reprenant ces chiffres de l'Institut Montaigne qui mettent en lumière le déficit que représenteraient les mesures économiques de Jean-Luc Mélenchon.
À écouter certains dirigeants de droite, d'extrême droite et même de la majorité macroniste aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on pourrait se replonger dans les livres d'histoire et j'ai un peu l'impression qu'on pourrait entendre tous les cris entendus à la veille de l'élection de 81 quand certains nous annonçaient le pire pour notre pays, pourquoi pas les chars soviétiques sur la place de la Concorde.
Mais quand Manuel Donc, Valls dit franchement, mon adversaire c'est le mélenchonisme, Manuel Valls n'est quand même pas d'extrême droite, Stéphane Troussel.
Ah bah écoutez, en tout cas, si pour Manuel Valls, la priorité des priorités, c'est de lutter contre la gauche et les écologistes rassemblés, plutôt que l'extrême droite, qui fait 42% dans une élection présidentielle, au deuxième tour d'une élection présidentielle, et alors que l'extrême droite se retrouve pour la troisième fois dans notre pays, à 20 ans d'intervalle, et que M. Valls a exercé des responsabilités, et que c'est là où il en est aujourd'hui. Franchement, je n'éprouve que du mépris.
Les détracteurs de cette alliance vous disent que vous ne venez pas vous allier, mais vous inféoder à la France insoumise. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ben écoutez, moi je crois tout le contraire. Vous savez, moi je suis en responsabilité dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je suis à la tête d'une majorité de gauche plurielle qui comporte des socialistes, des élus divers gauches, des communistes, des écologistes, et même des insoumis, vous voyez. Et j'ai l'impression d'être inféodé à personne. J'ai l'impression justement dans l'action qui est la mienne, et parce que j'ai rassemblé la gauche, non seulement j'ai conservé la présidence du département de la Seine-Saint-Denis, mais j'ai même fait progresser la majorité de gauche justement parce qu'elle était totalement rassemblée. Et j'ai l'impression que justement grâce à cette action, grâce à cette responsabilité, eh bien nous changeons concrètement la vie des gens. Nous mettons en place des dispositifs pour accompagner les familles, pour développer le sport, pour développer la culture, comme ce soir dans un collège de Seine-Saint-Denis. Donc c'est exactement l'inverse. Puis vous savez, si on devait aller rechercher les déclarations des uns et des autres, les écarts entre les uns, les différences entre les uns et les autres. Je vous invite à faire exactement le même travail auprès des responsables de l'actuelle majorité. Et vous auriez bien des surprises. Je vous invite à aller retrouver les propos de Bruno Le Maire, qui parlait d'Emmanuel Macron comme d'une coquille vide, de Gérald Darmanin, qui parlait d'Emmanuel Macron comme d'un poison, de François Bayrou, qui disait que derrière Emmanuel Macron, il y avait des intérêts financiers contraires aux intérêts de la France.
Bien.
Donc vous voyez, franchement, à ce petit jeu... Eh bien, je crois que les électeurs ne s'y tromperont pas.
On a entendu votre message. Merci beaucoup Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Merci, membre du bureau national du PS. Après cette photo politique du week-end, la gauche rassemblée à Aubervilliers pour le lancement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. 22h29.
Alexandre Le Maire sur Europe 1.
Un coup d'œil aux unes de la presse demain matin, mardi. Je commence d'abord avec les Échos, le sombre scénario du début du quinquennat. La croissance ne dépasserait pas un quart de point entre avril et juin, après avoir simplement stagné au premier trimestre. L'inflation, elle, devrait dépasser 5% en juin. Et le déficit commercial, ajoute l'opinion. Un fiasco à 100 milliards d'euros. La France, plombée par l'inflation énergétique, importe toujours plus de biens qu'elle n'en exporte, pendant que la réindustrialisation tarde, ce qui souligne la difficulté du pays à créer de la richesse. Le Figaro revient sur ce lundi européen du chef de l'État. Macron plaide pour une Europe à plusieurs vitesses, cercle d'avant-garde pour certaines coopérations, communauté politique pour accueillir les pays candidats, pendant que Poutine inscrit sa guerre en Ukraine dans la durée. Poutine, la stratégie du flou, c'est la une de l'UMA. Demain, le président russe a profité des célébrations du 9 mai pour souffler le chaud et le froid, justifier le conflit auprès de sa population, tout en assurant vouloir éviter une guerre globale. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et vous retrouvez sans plus tarder Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
C'est le retour de la Libre Antenne.
Exactement.
Voilà.
Mais elle ne nous a jamais quittés. Vous
Mais
savez
non,
qu'il
jamais.
Y en a une le week-end.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Exact.
Donc voilà, c'est le
merci
retour de la Libre Antenne de
merci
la semaine.
Merci de le rectifier, c'est très important. Oui, oui.
Exactement. Tous les week-ends, il y a notre charmante Sabine Marin qui est là.
Absolument.
Pour assurer cette Libre Antenne.
Avec qui nous nous croisons chaque vendredi.
Ah, c'est vrai ?
Mais oui.
Donc, ce n'est pas une inconnue pour
Absolument
vous.
Absolument pas.
Bon, elle est super.
Mais oui.
Comment ça va ?
Mais ça va très bien.
Bien,
ça va
bon
très
week-end
bien. Très bien, très bien. J'ai pas pris de coup de soleil. Je vais essayer de raser les murs parce que là, c'est 30 degrés à l'ombre. Ça devient.
C'est le retour de l'été partout.
C'est le retour de l'été
France.
Au mois de mai, au début mai.
Donc, vous qui nous écoutez, eh bien là, il va falloir profiter et le fait de pouvoir sortir rajoute un terrain de jeu supplémentaire pour s'offrir des bons moments, voyez-vous.
Exactement.
Nous sommes dans la période où c'est plus agréable quand même.
Ah, bah oui.
Pour nous qui sommes dans la partie nord du pays. Bon, ben voilà, on a fait notre petit point météo.
On
est bien, on se retrouve à 23h. On se retrouve à 23h pour un point sur les foies. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Olivier.